Radio Prague, les informations.
La rencontre entre Václav Klaus et Declan Ganley est mal vue en Irlande. Le traité de Lisbonne est au menu des conversations de Mirek Topolánek avec son homologue néerlandais Jan-Peter Balkenende. Magdalena Kožená chante ce mercredi soir à Prague. Le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, a critiqué la rencontre de mardi entre le président de la République tchèque, Václav Klaus, et le Mr. non irlandais, Declan Ganley, qui a eu lieu lors de la visite officielle de 3 jours du chef de l'État tchèque à Dublin. Pendant cette rencontre, Václav Klaus a exprimé son soutien au mouvement Libertas de Ganley et a fait remarquer que les adversaires du traité de Lisbonne prédominaient en Tchéquie. Selon l'agence AP, Michael Martin aurait caractérisé certaines positions de Václav Klaus comme absurdes, superficielles et fausses. Il s'agit surtout des analogies faites par le président tchèque entre les dissidents anticommunistes et les activistes anti-européens. Mirek Topolánek a rencontré à Prague son homologue néerlandais Jan-Peter Balkenende qui a insisté sur l'importance de la ratification du traité de Lisbonne pour les 27 pays membres. Selon Balkenende, la République tchèque serait bien préparée pour assurer à partir du 1er janvier 2009 la présidence de l'Union européenne et le Premier ministre tchèque de saisir l'occasion pour dire que dans l'Union européenne, tout le monde, donc aussi le président de la République, a le droit de s'exprimer librement. Il a réagi ainsi aux critiques émises à l'adresse de Václav Klaus. Le Parti des Verts tchèques a fermement critiqué lui aussi le président Václav Klaus pour ses opinions sur l'Union européenne qu'il a présentées lors de sa visite en Irlande. Le gouvernement a présenté ce mercredi le logo officiel de la présidence tchèque de l'Union européenne en donnant en même temps un coup d'envoi à la deuxième partie de la campagne d'information. Visuellement parlant, celle-ci mise sur les visages des Tchèques connus, dont le hockeyeur Jaromír Jágr ou le mannequin Tereza Maxová. Le gouvernement a interrompu le débat sur les réformes imposées par le ministre de la Santé publique, Tomáš Hlinek, qui a duré quelques heures. Ce dernier a soumis 4 lois qui font l'objet de critiques des chrétiens démocrates et en partie des Verts. Concert pour la première dame, c'est ainsi que s'intitule le récital donné ce mercredi soir au château de Prague par la célèbre mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená, accompagnée par le pianiste Malcolm Martineau, au programme des chants de plusieurs compositeurs tchèques. Le prochain concert de Magdalena Kožená en Tchéquie est prévu pour le 11 décembre. Météo ce jeudi, fête de tous les Tibor. Le temps en Tchéquie demeurera couvert. Des averses à caractère local pourront apparaître. Les températures diurnes s'échelonneront de 6 à 10 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Eh bien, merci à Alena des dernières informations et place maintenant à notre magazine d'actualité tchèque qui débutera avec la visite officielle du président de la République, Václav Klaus, en Irlande, où il a de nouveau exprimé son euroscepticisme, un sujet développé par Guillaume Narguet. Ensuite, c'est Alexis Rosenzweig qui nous présentera le projet de nouveau code pénal qui vient d'être adopté par les députés. Václav Richter, lui, s'est intéressé à la participation tchèque au salon de la sous-traitance en France et nous terminerons par une proposition audacieuse de modification du code civil, l'institution du mariage à vie. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer d'agréables moments en notre compagnie. Le président Václav Klaus a achevé mardi une visite de 2 jours en Irlande, un des 4 pays de l'Union européenne, avec la République tchèque, à ne pas avoir encore ratifié le traité de Lisbonne. Fort de sa réputation d'eurosceptique, qui l'accompagne désormais lors de chacune de ses sorties en Europe, Václav Klaus a profité de son passage symbolique à Dublin pour réaffirmer son opposition au traité réformateur des institutions européennes. Mais son discours n'a pas forcément été bien accueilli par le gouvernement irlandais, ni bien perçu par les politiques à Prague. Guillaume Narguet.
On se souvient qu'en juin dernier, quelques heures à peine après l'annonce de la victoire du non lors du référendum irlandais, Václav Klaus avait été l'un des premiers responsables politiques européens à réagir et l'un des rares à se féliciter de ce qu'il avait alors désigné comme la mort du traité de Lisbonne et la victoire de la liberté et de la raison. 6 mois plus tard, la position du président tchèque n'a pas évolué d'un iota. C'est ce qu'il a fait savoir lundi à son homologue et au premier ministre irlandais. À l'issue de sa rencontre avec ce dernier, Václav Klaus a indiqué que le chef du gouvernement irlandais n'avait pas encore adopté de mesures concrètes visant à une ratification à laquelle il est favorable.
Il réfléchit sur la manière de résoudre la situation apparue suite au résultat du référendum en juin dernier. Je pense qu'ils n'ont pas encore pris de décision, mais ils espèrent que cela ne constituera pas un nouvel obstacle au bon fonctionnement de l'Irlande au sein de l'Union européenne. Je ne peux donc pas affirmer avoir vu chez le Premier ministre irlandais des ambitions dramatiques de trouver une solution demain ou après-demain. D'après les déclarations qu'il a faites, mon opinion est qu'il sait qu'ils ne peuvent pas précipiter les choses de quelque manière que ce soit. La situation n'a donc pas encore mûri pour qu'ils puissent dire aujourd'hui ce qu'ils vont faire.
Fréquemment critiqué à Bruxelles comme à Prague pour ses positions qui vont à l'encontre de celles du gouvernement et de la majorité de la scène politique tchèque, Václav Klaus s'est défendu en se qualifiant de dissident de l'Union européenne. C'est donc sans surprise qu'il a répondu mardi soir à l'invitation à dîner faite à titre privé par un autre dissident de l'Union européenne, Declan Ganley, principale figure de la campagne du non en Irlande avant le référendum sur le traité de Lisbonne. À cette occasion, le président tchèque a répété que selon les sondages, les Tchèques partageaient la position de refus des Irlandais. C'en était trop pour certains à Prague, notamment pour les Verts, un des 3 partis de la coalition gouvernementale, qui ont vivement reproché à Václav Klaus de diffuser ses positions personnelles au détriment de celles officielles du gouvernement, contribuant ainsi à donner une image erronée de la politique du pays en matière d'affaires européennes. Un gouvernement tchèque qui, rappelons-le, entamera toutefois la présidence de l'Union européenne en janvier prochain, en étant probablement l'un des derniers, avec une Irlande qu'il reste encore à convaincre, à ne pas avoir ratifié le traité de Lisbonne.
Si la réforme du système de santé pose beaucoup de problèmes à la coalition gouvernementale, un compromis a fini par être trouvé mardi à la Chambre des députés concernant le nouveau code pénal. Principal changement apporté par ce nouveau texte, la majorité pénale passe de 15 à 14 ans. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Les mineurs iront bientôt en prison dès 14 ans et 14 ans sera également l'âge minimum légal pour avoir des relations sexuelles. Voilà comment le quotidien Lidové Noviny résume l'abaissement d'un an de la majorité pénale en République tchèque. La criminalité en hausse chez les jeunes adolescents était le principal argument des défenseurs de cette nouvelle loi. Une loi déjà en vigueur dans plusieurs pays de l'Union européenne, comme l'ajoute le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil. On l'écoute.
Je ne pense pas que l'abaissement de la majorité pénale soit un problème parce que beaucoup de pays de l'Union européenne l'ont fixé à 14 ans. Par exemple, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie l'ont déjà fixé à 14 ans.
Le nouveau code pénal adopté par la chambre basse du Parlement tchèque devrait apporter d'autres changements, et notamment en matière de classification de drogues, désormais divisées entre drogues dures et drogues douces. Désormais, la possession de moins de 20 cigarettes de cannabis ne sera passible que d'une amende. Le compromis a été trouvé entre les chrétiens démocrates, qui rejetaient, eux, l'idée d'une différenciation entre drogues dures et douces, et le Parti des Verts, qui souhaitait une dépénalisation du cannabis pour les majeurs. Pavel Severa est le président du groupe chrétien-démocrate. On l'écoute.
Nous sommes satisfaits que le contrôle des drogues ne soit pas moins ferme, mais nous aurions aimé que la différence ne soit pas faite entre les différentes drogues. Mais de toute façon, la pratique est telle que les juges, même si cela n'est pas dans la loi, font la différence et les peines infligées ne sont pas les mêmes selon les drogues.
Stanovení trestu určitým způsobem rozlišují. Des peines plus sévères pour plusieurs types de crimes et délits sont également prévues par ce nouveau code pénal. Par ailleurs, des sanctions alternatives pourront être prises à l'encontre des supporters de foot violents qui seront dans l'obligation de pointer au commissariat les jours de match à risque. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que ce genre de procédure pourra être appliqué pour tenter également d'empêcher les regroupements néo-nazis lors de concerts, par exemple. Ce nouveau code pénal devrait entrer en vigueur en 2010.
Midest, le plus grand salon industriel exclusivement consacré à la sous-traitance industrielle, s'est tenu du 4 au 7 novembre au parc des expositions de Paris-Nord, Villepinte. Parmi les 1805 exposants figuraient 679 entreprises étrangères venues de 33 pays, dont 25 de République tchèque. Václav Richter.
Comme cela pouvait être redouté, le salon a un peu souffert de la crise financière actuelle, ce qui s'est traduit entre autres par une certaine réduction du nombre d'exposants. Les représentants des entreprises tchèques venus chercher des partenaires en France et dans d'autres pays ont subi eux aussi les conséquences de cette nouvelle situation. Tandis qu'en 2005, les Français étaient prêts à importer pratiquement toute la production tchèque, aujourd'hui la qualité est le facteur décisif. La Tchéquie a perdu l'avantage d'une production à moindre frais. C'est ce que confirme Jana Falatova, directrice adjointe de l'agence gouvernementale tchèque Czechtrade.
Cette année, nous avons constaté l'influence certaine de la crise financière dans le sens où il y a eu moins de commandes sous-traitance tchèque enregistrées par rapport aux éditions précédentes du salon. Il est aussi intéressant de constater que les offres de certaines sociétés étrangères, par exemple espagnoles et italiennes, ont été inférieures et ce jusqu'à 20% à celles des entreprises tchèques.
Il reste pourtant des domaines dans lesquels les articles des sous-traitants tchèques font toujours l'objet d'une forte demande.
Le plus grand nombre de demandes, si je peux en juger, d'après le nombre relativement important de visiteurs de notre stand, concerne les diverses façons de traiter la tôle et le coulage d'aluminium sous pression. En ce moment, il semble cependant que les tendances à vouloir transférer toute la production à l'Est dans les pays asiatiques s'estompent quelque peu. En ce qui concerne les livraisons de pièces spéciales en petite série, les entreprises françaises préfèrent les sous-traitants tchèques.
Malgré cette information positive pour nos entreprises, il est évident que les années de prospérité arrivent à terme et que les sous-traitants tchèques seront donc contraints de chercher de nouvelles stratégies pour imposer leur production dans le monde.
Le Code civil tchèque, comme bien d'autres lois datant encore du régime communiste, est en pleine modification. Dans le cadre de celle-ci, le ministre chrétien-démocrate de la Culture, Václav Jehlička, a récemment présenté un projet qui pourrait faire sourire, mais qui a plutôt suscité une grande attention, le mariage à vie. Le ministère de la Culture a proposé tout simplement d'instituer le mariage civil à vie, dont il serait pratiquement impossible de divorcer. D'après ce qui a été publié dans la presse, les fiancés se mettraient d'accord pour conclure un mariage qui devrait durer toute leur vie et s'engageraient aussi à ne pas demander le divorce. Le mariage ne pourrait être révoqué que dans le cas où l'un des conjoints se rendrait coupable d'infidélité, par exemple, et que l'autre insisterait pour divorcer. D'après le quotidien Pravo, le ministre de la Culture propose aujourd'hui de revenir à la pratique qui existait avant l'année 1948, quand les cas de divorce étaient très rares. Il semble que la presse ait un peu exagéré, car le porte-parole du ministère de la Culture, Jan Cizlar, a fourni des informations quelque peu différentes.
Notre proposition a vu le jour au moment où le ministère de la Justice pensait présenter le projet d'abolition des mariages religieux. Selon nous, ce serait un pas en arrière, car les mariages religieux avaient été abolis par les communistes. Notre proposition visait à garantir, aux croyants surtout, la possibilité de conclure un mariage d'un plus haut niveau que le mariage civil pour eux, dans le cas de l'abolition du mariage religieux. Chacun pourrait choisir librement la forme de son mariage et il n'y aurait aucune obligation pour personne.
A samozřejmě dobrovolné a nikdo by k tomu nebyl nucen. Le ministère de la Justice a réellement reçu une telle proposition, comme le confirme son porte-parole, Yves Kazinke, tout en précisant qu'il est actuellement exclu qu'elle fasse partie du projet de modification du Code civil. Certains partisans du mariage à vie argumentent avec les conditions qui existent dans d'autres pays, surtout aux États-Unis. D'après Andrzej Flinta, de la chaire du droit civil de l'université Charles, si la Tchéquie révise son code civil en tant que pays d'Europe centrale, il serait insensé de prendre en compte les normes juridiques américaines et pas celles des pays voisins. Cyril Svoboda, principal législateur de la démocratie chrétienne, affirme que l'initiative du ministre de la Culture n'est aucunement celle du parti. Les chrétiens démocrates ont cependant des propositions de modification du code civil. Conserver les deux formes de mariage, civil et religieux, et ne pas mentionner le partenariat enregistré comme l'équivalent du mariage. De toute manière, d'après le ministère de la Justice, l'abolition du mariage religieux ne figure plus dans le projet de modification du code civil que le gouvernement doit examiner d'ici à la fin de cette année. Et c'est ainsi que nous allons quitter le présent sur Radio Prague pour nous plonger maintenant dans le passé avec notre habituelle rubrique historique.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Des synagogues et des magasins incendiés, des vitres et fenêtres cassées, une centaine de juifs tués au cours des violences, 30 000 déportés vers les camps de concentration. C'est ce qui s'est passé il y a 70 ans en Allemagne, au cours de la nuit du 9 au 10 novembre 1938, appelée la nuit de cristal. La nuit de cristal fut le plus vaste pogrom anti-juif dans l'histoire contemporaine et le prélude à l'élimination systématique des juifs. L'assassinat d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst von Rath, le 6 novembre 1938, par un juif polonais, Herschel Greenspan, qui voulait se venger pour la déportation de ses parents, a servi de prétexte. Pour la première fois au cours de cette nuit, il s'agissait d'un acte de persécution contre les juifs organisé par l'État. Des bandes composées de SS, de la jeunesse hitlérienne, de la Gestapo et d'autres forces de police ont attaqué les Juifs en s'emparant de leurs biens. Cette démonstration antisémite a touché l'ensemble de la communauté juive à travers toute l'Allemagne nazie, dont aussi l'ancien territoire tchécoslovaque, les Sudètes. Depuis 6 semaines alors, les Sudètes faisaient partie du Reich conformément aux accords de Munich. Au cours du pogrom, la plupart des synagogues considérées comme le symbole de la présence et du succès de la minorité juive ont été incendiées. La liste des citoyens d'origine juive était la clé de l'accomplissement du pogrom, souligne Helena Krejčová de l'Institut d'Histoire moderne. Dans le Sudètes, les nazis se sont tout d'abord emparés des registres de l'état civil qui faisaient partie des synagogues et seulement après, ils les ont incendiés. Cela continue encore dans la nuit de la Saint-Sylvestre au jour de l'an. Margita Marshalkova a vécu le pogrom dans le Sudètes à l'âge de 9 ans. Un cri horrible l'a réveillée. Sous nos fenêtres, une foule d'hommes a crié « Juif dehors, juif à la potence ». Le père de Margita Marshalkova a été déporté vers le camp de concentration d'Auschwitz. La mère a essayé de protéger au maximum ses filles. Finalement, elle a succombé aux énormes pressions psychiques. Elle a pensé que c'est elle le plus grand obstacle, qu'elle doit se retirer et elle s'est suicidée. Une quarantaine de synagogues ont été brûlées dans les Sudètes. Sur tout le territoire du Reich, plus de 260 synagogues ont été détruites, 7500 commerces et entreprises exploitées par les Juifs saccagés. 91 Juifs ont été assassinés, des centaines d'autres se sont suicidés ou sont morts suite à leurs blessures, et près de 30 000 ont été déportés vers les camps de concentration. Après cette nuit, les Juifs d'Allemagne n'ont non seulement reçu les indemnisations de la part des caisses d'assurance, mais ce sont eux qui ont dû payer à l'État 1 milliard de marques d'amende pour les réparations des dégâts causés par la juste fureur nationale. De nombreuses représailles ont suivi le pogrom. Ainsi, les passeports juifs ont été marqués de la lettre J, Jude. Les enfants ne pouvaient pas fréquenter les écoles publiques. Les juifs ne pouvaient pas exercer les métiers de médecin et d'avocat. Les premières pierres de la mémoire sont apparues dans les rues du quartier juif de Prague au mois d'octobre dernier. Leur sens est de rappeler la mémoire des millions de victimes de la Shoah. De petites plaques métalliques encadrées dans le pavé portent les noms de juifs disparus. Max Eckstein est l'une de ces victimes. On ne sait que très peu de choses sur sa vie. Il n'y a personne qui pourrait en dire davantage, dit Leo Pavlat, directeur du musée juif de Prague, en résumant les rares informations disponibles.
Il est né en 1896,
il a été assassiné à Lodz à l'âge de 46 ans. Max Eckstein a été déporté vers le camp de concentration dans le cadre du transport C-396. C'est tout ce que nous savons de cet homme, et c'était ici, à Prague, l'adresse de son dernier domicile.
Le destin des victimes du nazisme est rappelé par des milliers de pierres de la mémoire en Europe, ajoute Petr Mandl, président de l'Union tchèque de la jeunesse juive.
Ces pierres rendent hommage à tous ceux qui ont été systématiquement persécutés et exterminés, donc à part les juifs, les roms et les handicapés physiques, également les membres des groupes de résistance.
Près de 16 500 pierres de la mémoire dans toute Europe rappellent les victimes de la Shoah, leurs traces laissées dans ce monde, dit l'auteur du projet Günther Demning. Ces pierres se trouvent en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, aux Pays-Bas et depuis le mois d'octobre dernier également en Tchéquie.
Lo, 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 ira, ra. Gam, ki, elech, begei, salima. Yay, gam ki elech, begei salma vet. Ay, gam kiele, begei salmame. La, 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 ira, ra. La, 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 ira, ra.
C'est la fin de ce programme, mais nous espérons vous retrouver sur Radio Prague pour une prochaine émission. N'oubliez pas la possibilité de vous connecter à notre site www.radio.cz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.